Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Encore une fois, un grand merci d'être avec nous sur RMC pour votre week-end des experts, le premier de l'année 2020. Et avant de retrouver tout à l'heure Christian et Kia, qui on souhaitera une bonne année, avant aussi d'accueillir Raphaël Grabi tout à l'heure entre 9h et 10h, eh bien c'est Christian PC dans ce week-end
des
experts.
Mais oui, je suis là.
Vous êtes là,
bonne
Christian.
Année. Bonne année, j'ai commencé. J'ai tiré le premier.
Tous mes vœux, mon cher Christian PC. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2020?
Je ne sais pas, peut-être...
Des nouvelles briques en béton.
Si je veux être très sérieux, je dirais qu'on y voit un peu plus clair sur toutes les aides pour qu'attendent les gens depuis pas mal de temps maintenant. C'est en train de se clarifier. Mais vous savez que les choses en France, quand ça se clarifie, c'est dans 5 mois.
Oui, quand ça se clarifie, il faut du temps. Hein. Tout ne se clarifie pas comme ça, d'un claquement de doigts.
On pourra en parler tout à l'heure.
Voilà, en tout cas, Christian, ravi de repartir pour cette nouvelle année en votre compagnie. 7h-8h, vous le savez, la maison sur RMC, une heure entière dédiée au bricolage et à la déco. Avec au menu, en ce 4 janvier, c'est d'actualité, on va se réchauffer correctement, mais avec une pompe à chaleur.
Voilà, on va voir comment on peut se chauffer et pas se pomper avec une... je ne sais pas si ça fera une contre-pétrie intéressante.
Alors, je pense en plus qu'à 7h-6, celle-là ne passera pas.
Voilà. Donc, on va se chauffer une pompe à chaleur.
Bien sûr.
Et donc, on va
alors que les Shadowc, eux, pompaient.
Oui, évidemment. Pompaient, et ils pompaient même la nuit. Hein,
tout à fait.
C'est bien. Hein. Et les Jibi, ils les regardaient pomper.
Exactement.
Donc, on va voir quelles sont les différentes possibilités, les technologies en présence. Et puis, peut-être comparaison avec aussi d'autres moyens de chauffage. On va se demander, ça peut aussi être associé à d'autres moyens. Ce sont les tendances un peu d'aujourd'hui. On va parler également d'hybrides. Il n'y a pas que les voitures qui sont hybrides. Il y a aussi des chaudières et il y a aussi des pompes à chaleur.
Et on en parlera avec une spécialiste du sujet.
Oui, on va en parler avec Evelyne Bechtel, qui est responsable de la communication de l'AFPAC, l'association française de pompes à chaleur, et par ailleurs dans le domaine de la communication chez Daikin, qui est un grand fabricant de ce type de matériel.
De climatiseur.
Voilà. Climatiseur, on verra. Un climatiseur, c'est une pompe à chaleur.
Et bien voilà, ça fait du froid et ça fait du chaud, en fait, une climatisation. On retrouvera aussi votre coup de cœur. On parlera notamment de la certification des logements et du fameux label NF Habitat.
Oui, on va voir que c'est une bonne chose. Ça tend à se développer. C'est une façon de vous assurer qu'un logement a été construit, fabriqué dans un certain nombre de
dans les règles de l'art.
Ça donne aussi une plus-value au logement.
Voilà, il y a le poulet label rouge, il y a le label NF Habitat pour la maison.
Voilà.
C'est un peu ça.
Et voilà, et quand, dans la cuisine, quand elle est bien installée, vous pouvez faire cuire le poulet label rouge, sinon il ne cuit pas.
Non, il ne cuit pas.
Il ne cuit que dans les logements certifiés NF.
Bon, vous n'avez pas trop mangé pendant ce...
Non, ça va pas.
C'est fait.
Non, ça va très bien.
Je pense que vous avez un peu fait ripaille quand même, Christian.
Hein.
On est entre nous. Vous faites attention.
Oui.
Eh bien, alors
c'est
ça...
pas pour ça que je ne fais pas ripaille.
Oui.
Je fais attention à faire ripaille.
Vous faites attention à faire ripaille. C'est très bien. Vous avez bien raison. Et puis, je vous rappelle à tout moment, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions au bricolage déco maison. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et avant de retrouver le conseil de l'expert, on va parler de béton cellulaire avec Christian. Là, on est dans l'Our. Avant tout cela, c'est Annie que nous accueillons au 3216. Bonjour Annie.
Oui, bonjour messieurs.
Oui, bonjour.
Bonjour Annie, bienvenue sur RMC. Et tous nos vœux de bonheur, ma chère Annie, pour 2020.
Tous mes vœux à vous aussi, hein, que ça se passe bien.
Eh bien voilà.
Et Christian, voilà, donc moi, je voulais avoir les conseils de Christian, parce que j'ai eu un gros problème dans un appartement que je loue. La cuisine a pris feu à cause d'une plaque chauffante donc en céramique. Il paraît qu'elles sont très dangereuses, donc ça, j'en sais rien.
Oui, mais c'est surtout votre installation électrique qui était défaillante, parce qu'elle aurait dû tout couper rapidement.
Ben, il paraît qu'elles ne s'éteignent pas. Alors, à l'inverse des plaques à induction...
Ça c'est clair, mais votre table, elle aurait dû être coupée lorsqu'il y a eu dysfonctionnement. Ah. Votre installation électrique, au niveau du tableau, aurait dû disjoncter.
D'accord, donc c'est pas moi qui l'avais installé. Bon, pardon. Voilà. Ok, donc voilà. Donc, tout a flambé, la cuisine. Oui. Les détecteurs de fumée n'ont pas agi. Donc, les personnes n'étaient pas là, heureusement. Ah oui. Bon,
c'est la totale.
Voilà, la totale. Donc, ça s'est propagé partout. C'est un duplex, donc les chambres n'ont eu très, très peu. Mais enfin, tout le séjour était noir, carbonisé, les fenêtres fondues, les volets. Enfin, bon, la catastrophe.
Mon Dieu.
Voilà, oui. Alors, donc, mon conseil, enfin, je voudrais avoir un conseil parce que ils vont commencer les travaux, j'espère bientôt. Pour l'instant, c'est le rapport passe de main en main entre les assurances. Je suis complètement tenue en écart, à l'écart, hein, oui. Parce que je suis pas la première, affectée. Et donc, ils m'ont dit, vous allez recevoir, d'après avec des questions, parce que j'y comprenais rien, ils m'ont dit, vous allez recevoir donc de l'argent de l'assurance, et vous allez être le maître d'ouvrage.
Oui, alors l'appellation maître d'ouvrage, vous inquiétez pas, nous sommes tous maîtres d'ouvrage, moment où nous faisons des travaux, hein, c'est tout.
Oui, mais c'est moi qui vais payer, par exemple, le peintre, c'est moi qui vais payer l'électricité, alors l'électricien...
Ça, c'est pas normal. C'est votre
assurance. Voilà, je voudrais être aidé, savoir avoir au moins un conseiller en bâtiment qui me dise oui, madame, vous pouvez payer, voilà.
Ah, alors c'est très compliqué. D'abord, vous auriez dû demander à votre assurance d'avoir un maître d'œuvre qui gère les travaux, c'est-à-dire que vous ne deviez dire ah bon, moi c'est ce que j'aurais fait. J'aurais dit moi il y a trop de travaux dans des corps d'état différents pour que je sache les coordonnées. Si vous aviez eu simplement de la peinture, c'était pas compliqué. Mais là c'est effectivement plus compliqué. Donc vous êtes dans cette situation. Vous allez alors effectivement, réceptionner travaux après travaux.
Il n'y a qu'une entreprise, je pense. Hein, d'après ce que j'ai compris, parce que les explications, il faut leur tirer du nez. Hein.
D'accord, mais moi je poserai quand même la question à l'assurance de la désignation d'un maître d'œuvre. Au minimum d'un coordinateur de travaux. Donc moi, c'est la demande que je ferai à mon assurance. Ensuite, une fois que les travaux sont faits, vous allez faire une sorte de réception, c'est-à-dire voir si tout marche ou si ça marche pas.
Avec un conseiller quand même, avec quelqu'un.
Après, c'est à vous. Hein, si vous voulez avoir quelqu'un pour vous aider, vous choisissez quelqu'un pour vous aider. Sinon, in fine, vous pouvez faire aussi une expertise, mais à vos frais. C'est-à-dire demander à un expert de venir et de contrôler que tout est dans l'ordre, mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions.
D'accord.
Voilà. Premièrement, demandez à ce qu'il y ait un maître d'œuvre qui coordonne tout cela, et deuxièmement, éventuellement faire donc intervenir un expert en bâtiment, mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ou avoir des amis qui s'y connaissent.
Christian.
Oui.
Après Annie, qui n'était pas votre femme, hein,
non,
quand même, rappelons-le, cette auditrice n'était pas votre femme, puisque rappelons qu'elle s'appelle Annie.
Oui. Saluons d'ailleurs.
Pardon ?
Nous la saluons d'ailleurs.
Mais on l'embrasse, voilà. si vous me le permettez.
Mais oui.
Bien évidemment, pour la nouvelle année, on peut tous se permettre.
N'exagérez pas. Hein.
Mon cher Christian, il est temps maintenant de retrouver le conseil de l'expert Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Christian, ça serait bien d'ailleurs que vous essayiez de réparer notre porte du studio.
Oui, la porte.
Je vois que notre
elle reste ouverte.
Vous savez que même le week-end du 4 janvier, le directeur de l'antenne RMC est là pour essayer de fermer cette satanée porte qui reste ouverte. Et je compte sur vous pour donner un coup de tournevis.
Des courants d'air, vous allez prendre froid parce que vous êtes juste devant.
Oui, c'est vrai. Je vais essayer. Plus sérieusement, est-il intéressant, puisque c'est l'heure du conseil de l'expert, est-il intéressant de construire en béton cellulaire? Et pour quelles utilisations, en fait, dans la maison ?
Alors, le béton cellulaire, c'est un matériau super, qui est très utilisé en Allemagne, qui est très utilisé dans les pays nordiques, et on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, si, parce qu'il y a une tradition en France autour du béton, mais du béton de ciment. En France, c'est pas très utilisé. Alors, même beaucoup de gens, lorsqu'on dit béton cellulaire, ils savent pas ce que c'est. Quand on leur dit Ciporex, ils connaissent déjà un peu mieux.
Ils savent ce que c'est.
Parce que le Ciporex, c'est la première marque qui a développé ce type de produit. Alors, c'est quoi ? Alors, c'est du sable, du ciment, de la chaux et ce qu'on appelle un agent d'expansion qui est de la poudre d'aluminium. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne une structure alvéolaire. Je veux dire, c'est un peu comme un soufflet. Ça prend du volume et donc, du coup, c'est plus léger que le béton. Ça forme des blocs. Ça s'est passé en plus dans un four, dans un autoclave et ça donne un produit extrêmement résistant à tout point de vue et très léger. Donc, ça présente beaucoup d'intérêt parce que plus léger, c'est plus facile à manipuler sur un chantier. Ça s'assemble parce que c'est parfaitement rectangulaire, enfin quadrangulaire. C'est très précis, donc ça s'assemble à joint mince, ce qu'on appelle la joint mince, c'est-à-dire avec de la colle, mais de la vraie colle pour ce type de matériaux. Les joints verticaux n'ont même pas besoin de joints, donc ça fait des murs très étanches à l'air, ce qui est une des exigences aujourd'hui des réglementations thermiques. Ça se coupe, ça se scie avec une scie à forte denture, un petit peu comme les carreaux de plâtre qui se scient aussi de cette manière. Alors, quels sont les intérêts ? Eh bien, quels sont les avantages ? Ils sont nombreux. C'est léger, moins de fatigue sur le chantier, ça donne une précision d'assemblage parfaite, facilité de découpe et propreté des chantiers. Les chantiers sont très propres, il n'y a pas du mortier partout, comme on le voit souvent, dans des chantiers avec du béton du mortier ou du béton de ciment. Il y a des qualités qui sont propres à ce matériau, c'est une bonne résistance à la compression, donc ça fait des murs très, très solides. Une bonne résistance thermique aussi, ça c'est loin d'être négligeable, parce que pratiquement, il n'y a pas besoin, sauf si on est en mur de 50, mais il n'y a pratiquement pas besoin d'isolation rapportée. On arrive à des murs, alors pour les spécialistes, il y a un R de 2,8. C'est la résistance thermique de 2,8. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parpaing de béton, c'est en dessous de 1. Donc on comprend bien que c'est 3 fois plus isolant qu'un parpaing de béton de ciment. Il y a un bon déphasage en été. Alors qu'est-ce que le déphasage ? Le déphasage, c'est le temps qu'un matériau met à transmettre la chaleur. Ce qui veut dire que après une nuit où il a fait frais, lorsque le soleil se lève, eh bien la chaleur va mettre plus de temps à pénétrer. Ça veut dire que donc vous aurez plus frais dans la maison pendant une bonne partie de la journée. Bonne résistance au feu également, c'est quand même aussi intéressant. Bonne qualité d'isolation acoustique, très bonne étanchéité à l'air, je l'ai déjà dit. Toutes les formes de blocs, y compris des carreaux. Et les carreaux, on peut même les utiliser, par exemple, pour faire un plan de travail. On peut les utiliser pour faire une table basse, pour faire une crédence dans une pièce. Alors vous allez me dire, c'est le matériau idéal. Alors quels sont les défauts du matériau ? C'est presque les défauts de ses qualités dans une certaine mesure. C'est que d'abord, comme c'est très précis comme cote, il faut partir d'un socle extrêmement précis lui-même. Donc si on a une dalle, il faut que la dalle de béton soit extrêmement bien de niveau. L'autre inconvénient, c'est que c'est plus fragile qu'un bloc de béton. Donc sur un chantier, on va risquer peut-être de l'ébrécher. Donc il faut faire attention. Enfin, ça aussi ça se fissure un peu plus facilement qu'un bloc de béton. D'où la nécessité de ce socle parfaitement droit. Et puis c'est pas très facile d'accrocher dedans, c'est-à-dire que le chevillage dedans est plus difficile que dans du béton. Et donc, par exemple, pour fixer un store, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, l'enduisage se fait avec les enduits de façade se font avec des produits spécifiques. Néanmoins, malgré ce que je viens d'éviter de dire, le résultat est extrêmement positif. On devrait construire beaucoup plus en béton cellulaire, même si c'est un peu plus cher que nos parpaings. Mais les traditions ont du mal à disparaître. On le sait bien chez nous. C'est pas forcément du jour au lendemain qu'on change de mode constructif.
Donc, vive le béton cellulaire.
Je trouve vraiment que c'est très bien.
Le mot de la fin de ce rendez-vous de Christian. Christian revient dans un instant. La météo. Voilà, on retrouve la météo et puis on revient pour la suite de ce week-end des experts maison. Peut-on se chauffer correctement avec une pompe à chaleur ? Eh bien voilà, on va évoquer tout ça avec vos questions sur ce sujet 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On en parle avec notre invité. A tout de suite, c'était RMC.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Que calor, señor, ay, que calor. Le soleil, señor, il y va fort. Ces temps-ci, il bat tous les records. 40 au-dessus zéro, vraiment, c'est un peu trop.
Christian, vous, je sais que
Dario Moreno, évidemment.
Bien sûr, vous avez envie de danser, je vous comprends, oui, mais oui. Là, c'est pas tout à fait le moment. Qu'est-ce qu'alors, faut pas exagérer quand même, hein, en ce 4 janvier, on n'y est pas pour, c'est pas pour tout mais de suite.
Dans
hein.
la maison, oui.
Mais qu'est-ce qu'alors, dans la maison.
Ben oui, en la maison.
En la maison, avec la pompe à chaleur.
Hein? À calor.
Et la pompe à calor.
C'est une autre marque.
Oui, on fait pas de la pub pour calor à ce moment-là. Hein. Oui, on va parler donc de la manière de se chauffer correctement, oui. Avec pourquoi pas une pompe à chaleur.
Alors, la pompe à chaleur, comment ça marche, y a des
ça vit notions, son œuvre.
Voilà, ça vit son œuvre. Qu'est-ce que le COP ? On va revenir. Pas le pop, hein, le coq.
Le coq.
Le COP.
Ah.
On va y arriver.
Non, mais on s'en sort pas.
Voilà, quelles sont les configurations, plus sérieusement, les plus répandues. Nous avons avec nous Evelyne Bechtel, qui est responsable de la communication de l'AFPAC, Association française de pompe à chaleur. Bonjour.
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 Et puis, vous êtes aussi responsable du marketing et de la communication chez Daikin. Daikin, un grand fabricant donc de pompes à chaleur. Alors, d'abord, tout simplement, comment ça marche une pompe à chaleur ?
Alors très simplement, le fonctionnement d'une pompe à chaleur consiste à transférer des calories d'un environnement à un autre. Quand on est en mode de chauffage, on va prélever des calories dans l'environnement extérieur pour les restituer à l'intérieur de l'habitat. Et quand on passe en mode rafraîchissement, on inverse le cycle, on enlève les calories qui sont présentes dans l'intérieur et on les expulse vers l'extérieur.
D'accord.
C'est de façon un petit peu simplifiée le fonctionnement d'un réfrigérateur.
C'est ça. Alors, on va dire réfrigérateur à l'endroit ou à l'envers, suivant
le mode que l'on choisit, chauffage ou rafraîchissement.
Christian, moi j'ai une clim à la maison,
oui,
donc j'ai une pompe à chaleur.
Absolument.
Et toutes les clims sont des pompes à chaleur.
Toutes les clims sont des pompes à chaleur.
Voilà, c'est pour ça qu'on dit clim réversible.
Et en revanche, toutes les pompes à chaleur ne sont pas forcément des clims, puisqu'on peut les utiliser pour chauffer.
Et oui.
Mais on peut les utiliser aussi pour les deux. À ce moment-là, on dit qu'elles sont réversibles.
D'accord. Voilà. Il existe des pompes à chaleur qui ne font que de la chaleur.
Absolument.
Voilà.
Absolument. Alors, on parle en matière de. On dit que c'est très économique, puisque, effectivement, il y a besoin de moins de kilowatt-heure, puisque ça marche à l'électricité, pour la faire fonctionner, qu'elle en restitue. Alors ça, c'est un petit peu mystérieux, c'est ce que je crois qu'on appelle le COP, le coefficient d'efficacité. Par quel miracle on passe donc d'un kilowatt à 3 ou 4 kilowatts, COP 1, 2, 3, 4, suivant la puissance quelque part.
Il n'y a aucune magie derrière tout cela. Une pompe à chaleur fonctionne en partie, en effet, vous l'avez précisé, à l'électricité, mais aux énergies renouvelables, et en l'occurrence, là peut-être puiser de l'énergie dans le sol, puiser dans l'air extérieur, pour le restituer à l'intérieur. Donc, on va consommer jusqu'à 75% d'énergie renouvelable, et le COP traduit tout simplement la quantité, le rapport entre la quantité d'électricité que l'on consomme par rapport à l'énergie, en l'occurrence la quantité de chauffage que l'on restitue.
D'accord, donc
si l'on parle d'un COP de 4, on consomme 1 kWh d'électricité et on restitue à peu près 4 kW de chauffage.
D'accord, donc c'est évidemment très économique, mais on sait bien que ça n'est quand même pas dans les températures les plus basses que c'est le plus performant. Ça, c'est le COP que vous évoquez, il est pourquoi pour 7 degrés,
oui,
c'est ça ?
Le COP est communiqué, c'est une donnée qui est communiquée pour une température extérieure de plus 7 degrés. Il existe également des informations qui sont appelées S-COP, c'est le coefficient de performance saisonnier, et là on obtient une données lissées sur l'année pour connaître la performance de la machine en fonction des variations de température extérieure.
D'accord, alors on parle de. C'est un petit peu confusant pour tout le monde, on parle de pompe à chaleur RR, OR, on peut même avoir même de l'eau
RO.
RO, enfin, ça veut dire quoi ? C'est que le premier facteur, c'est le milieu où on puise, et le deuxième facteur, c'est le milieu où on transmet, c'est ça ?
C'est exactement ça. RO, On puise l'énergie dans l'air et on la restitue par le vecteur eau, donc par un circuit hydraulique. RR, on va puiser de l'air dans l'environnement extérieur et le restituer par soufflage d'air. Eau, on va puiser dans l'eau, etc.
C'est l'RR qui est quand même, en tout cas en rafraîchissement, c'est l'RR qui est le plus pratiqué.
C'est le plus pratiqué en effet et on va dire que la consommation, l'usage est davantage dans le sud de la France. Quand on va vraiment adresser du chauffage, on a la possibilité d'aller vers du RR si on intervient en remplacement de chauffage électrique par exemple. Le remplacement se fait facilement par une pompe à chaleur RR. Si l'on est en remplacement d'une énergie plutôt fossile, on va s'orienter vers des solutions RO ou de la géothermie en fonction des conditions possibles.
Justement, géothermie, on va parler, mais R, par exemple, RO, on va puiser dans l'air et on va transmettre au radiateur de l'eau chaude, enfin le liquide qui a le porteur, de l'eau chaude, ou au plancher chauffant. Est-ce que ce n'est pas la meilleure configuration ? C'est-à-dire puiser dans l'air, c'est simple. L'envoyer dans un plancher chauffant, c'est aussi simple et c'est confortable.
C'est très simple et ça a le mérite de permettre des travaux de rénovation simples. Quand on est dans une configuration de chaudière, on n'a pas besoin de changer ses émetteurs. On peut conserver ses radiateurs haute température, par exemple, et on vient simplement repiquer, entre guillemets, la pompe à chaleur sur le réseau hydraulique.
Alors, il y a quelques années, on remplaçait tout par, mettons, on avait une chaudière, on remplaçait par une pompe à chaleur. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on va plus vers des solutions mixtes, justement, pour utiliser la pompe à chaleur dans sa meilleure forme, c'est-à-dire jusqu'à 7 degrés. Est-ce que si j'ai une bonne chaudière à fioul, pour tout vous dire, c'est mon cas, hein, j'ai une très bonne marque, j'ai une Viessmann, pour ne pas la nommer, elle marche très bien. Est-ce que si je mets une pompe à chaleur en plus, je vais véritablement avoir un gain ?
Alors, ce que vous évoquez, c'est la pompe à chaleur en relève de chaudière. Cela peut en effet se pratiquer. Ça va dépendre de l'ancienneté de votre chaudière. Si vous avez en effet une chaudière relativement récente, il est pertinent de se poser la question du remplacement total ou de la relève de chaudière. Et il existe des régulations qui permettent de donner la priorité au système de fonctionnement qui sera le plus économique à un instant T et qui garantira le meilleur confort.
Oui, alors comme en ce moment les hivers sont plutôt doux, finalement c'est une bonne solution parce que sans doute globalement on a aussi des coups de froid, on a vu ça récemment, notamment au mois de novembre, ça a commencé très tôt la période de fraîcheur. Est-ce que là c'est intéressant effectivement d'avoir une pompe à chaleur qui va marcher tout le temps pratiquement jusqu'à 7 degrés? C'est rare qu'on descende beaucoup en dessous de ces températures ces dernières années pendant l'hiver. Ça va être intéressant comme solution.
Oui, ça reste intéressant puisque le fonctionnement de la chaudière va être extrêmement limité. Elle va être très peu sollicitée. Ça va être dans des cas de figure très limités. Et pourquoi la chaudière se déclenchera ? C'est parce qu'on va y adjoindre une pompe à chaleur de petite puissance. La possibilité de remplacer totalement est également une solution, mais dans ce cas, avec une pompe à chaleur de plus grande puissance.
Moi, j'avais une petite question concernant la qualité du chauffage. Parce que aujourd'hui, on a plusieurs qualités de chauffage, hein, chauffage électrique, etc. Pompe à chaleur. Est-ce que la qualité du chauffage est bon ?
Ah ben, Evelyne va pouvoir nous lire, mais moi je vous apporter une complément de notre.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, on parle vraiment de chauffage à part entière, et Christian le précisait en début d'émission. On a des solutions qui ne fournissent que du chauffage pour certaines, hein, c'est vraiment dédié au chauffage. Quand on est dans une configuration de pompe à chaleur RR, l'intérêt est d'avoir une bonne diffusion de l'air, un bon brassage de l'air, ce que l'on ne va pas retrouver avec un convecteur électrique. On aura une sensation de chaleur à proximité de l'émetteur.
C'est une chaleur confortable,
alors,
Christian ?
Mais, alors, la question est simple, c'est que en réalité, il n'y a pas de... Sauf peut-être pour l'air pulsé, justement là, qui peut être contesté en termes de qualité, on aime, on n'aime pas. Mais sinon, pour le reste, ce sont les mêmes modes de chaleur, c'est-à-dire
les émetteurs restent les mêmes.
C'est la production de chaleur qui
oui, mais
qui
c'est change. La chaleur pulsée qui change. Alors, peut-être la sensation,
ça c'est uniquement pour RR.
Et j'ajouterais pour lever un petit peu cette idée reçue, aujourd'hui les systèmes qui sont proposés, que vous appelez en air pulsé, en pompe à chaleur, disposent, en tout cas pour les modèles de qualité, de détecteurs de présence qui permettent d'orienter le flux d'air ailleurs que sur les occupants.
Ah d'accord.
Voilà. Okay. Donc ça permet d'éviter de cet effet de courant d'air.
Donc
que
les
vous
petites ailettes bougent automatiquement.
Exactement.
Ouais. Suivant
exactement.
Si une personne ou pas.
Ouais. Exactement.
Pour ne pas le nommer, parce que vous ne le ferez pas, mais Daikin développe ça depuis quelque temps, et je trouve ça tout à fait intéressant, puisque là, c'est toute l'évolution de l'électronique.
Mais on parle d'air pulsé, donc c'est typiquement le cas avec une clim réversible.
C'est ça.
Mais là, on est dans cette configuration.
Une pompe à chaleur RR, une clim réversible, voilà. On parle de la même
mais
chose.
Mais sinon, vous avez des radiateurs, sinon vous avez un plancher chauffant, exactement pareil que si vous aviez une chaudière.
Georges est avec nous au 32-16, Christian.
C'est bien.
Bonjour Georges.
Oui, bonjour à
bonjour,
tous.
Bonjour
Georges. Bonjour. Je suis en plein dedans, puisque aujourd'hui, je prévois de faire construire une maison donc dans une région, la Bretagne, et donc se pose le problème de l'énergie. Hein, il s'agit d'un plain-pied. Et donc aujourd'hui, évidemment, on privilégie l'isolation, mais maintenant, quelle énergie choisir? Donc j'ai des propositions de en plancher chauffant uniquement.
Alors ça n'a rien à voir l'énergie, ça n'a rien à voir avec le plancher chauffant, si vous voulez. Le plancher
chauffant,
voilà, on est
ça.
D'accord. Hein
oui, tout à fait. Mais donc le problème est faut-il choisir une nappe électrique ou choisir une nappe à une production d'eau,
je vous réponds tout de suite. Eau, parce que oui. Les dalles chauffantes électriques, ça peut être une solution de rénovation lorsque vous avez un sol froid, etc. Mais d'abord, ça consomme pas mal et en plus, ça a une inertie extrêmement importante. Ce qui veut dire que quand vous avez des retournements de température, vous allez dans certains cas vous geler et dans certains cas avoir trop chaud. Hein, donc parce que la dalle elle va mettre 3 jours pour réagir. Donc je vous dis tout de suite. Vous pouvez tout de suite passer à l'hydraulique. Donc, c'est un plancher avec de l'eau, en quelque sorte.
D'accord, tout à fait. Donc, après, on a toute la gamme, gaz, pompe à chaleur, comme j'entendais parler là tout de suite.
Ah bah, gaz, si vous êtes raccordable. Si vous avez
oui, si je suis raccordé, je suis raccordable, donc ça peut être intéressant mettre du gaz.
Moi, ce que je pense,
plus tard, de la pompe à chaleur.
Voilà. Alors, si vous voulez, ce que je pense, c'est que si vous étiez dans une région froide, vous avez peut-être un intérêt à avoir du gaz et peut-être une relève avec une pompe à chaleur ou une pompe à chaleur hybride. On va y venir tout de suite pour expliquer ce que c'est. Voilà.
Mm-hmm.
Mais vous êtes en Bretagne, la température il gèle relativement peu souvent, donc la pompe à chaleur peut être tout à fait indiquée. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance de frappe, je vais dire, que vous communiquerez le gaz. Mais les deux sont possibles. Que pensez-vous, Evelyne?
Oui, d'autant que vous faites construire, donc vous allez, vous le disiez très justement, bénéficier d'un logement très bien isolé. Les températures extérieures descendent peu. Et en effet, vous avez plusieurs solutions. La pompe à chaleur hybride, on reviendra tout à l'heure. Je voudrais apporter une précision par rapport aux pompes à chaleur, parce qu'on oppose souvent en disant si ça gèle, il vaut mieux aller sur de la chaudière. Il ne faut pas être réducteur sur ce point-là parce qu'en effet, aujourd'hui, les systèmes garantissent encore de bonnes performances par des températures extérieures très basses, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une vingtaine d'années.
Mais avec un effondrement du COP.
Mais avec, alors pas toujours un effondrement, une baisse du COP, oui. Maintenant, vous le disiez très justement, des hivers de 2 mois à moins 15 degrés en Bretagne, pour y aller régulièrement, on est à l'abri, fort heureusement.
Vous pouvez nous parler justement de la... on a répondu à votre question.
Tout va bien, Georges?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai juste. Quand on discute pompe à chaleur, tout de suite, on a toujours l'inquiétude de trouver les bons professionnels et les bons mainteneurs. Puisqu'en fin de compte, ça, c'est le gros problème et les grosses inquiétudes, quoi, qui font peur de prendre une pompe à chaleur.
Casquette de l'AFPAC.
Casquette de l'AFPAC,
Evelyne.
Tout à fait. Alors, l'AFPAC a édité 10 commandements, et vous le disiez très justement, avant de mener un projet pompe à chaleur, il est important d'être bien entouré. Donc, la sélection d'un installateur, c'est un élément important. Il faut un installateur qualifié RGE pompe à chaleur, de préférence. Il est important que cet installateur prenne connaissance de vos besoins, puisque le dimensionnement de la PAC sera aussi fonction de vos attentes en termes de confort. Tout le monde n'a pas la même appréciation du confort. Il est important de faire réaliser plusieurs devis, ça peut paraître évident, mais il est important de le rappeler. Ne pas se précipiter, parce qu'on peut être tenté parfois par des offres commerciales alléchantes. De toute façon, l'installateur doit se déplacer. Si c'est une rénovation, dans votre cas de figure, il y a un plan, donc des calculs existent. Votre constructeur, si vous passez par un constructeur, dispose d'un bureau d'études qui aura fait tous les calculs thermiques pour définir la puissance nécessaire et donc isoler les solutions idéales.
Et ne jamais signer sur foire.
Ah, jamais sur foire, oui, parce qu'on perd, en fait.
Ben, vous n'avez pas la possibilité de rétractation.
Voilà.
Et malheureusement, aujourd'hui, sur foire, 6 sur 10 sont des éco-délinquants.
Et si vous signez sur foire, l'installateur n'est pas venu chez vous, donc vous avez signé pour un matériel qui ne correspond peut-être pas à vos besoins.
À vos besoins, et ça, c'est important. Voilà, Georges.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup.
Et bonne journée. On vous souhaite un beau projet avec une belle maison. Voilà. On revient dans un instant. Christian, avec toujours notre invité.
On va parler d'hybride.
Evelyne Bechtel, l'hybride.
Oui.
Comme dans les voitures.
Comme ma voiture.
Vous faites de la concurrence à Jean-Luc Moreau, tiens.
Oui, ou à Toyota.
Mais vous savez quoi? Alors, tenez, en aparté, moi j'ai une Zoé, donc une voiture électrique. Et j'ai une pompe à chaleur pour me chauffer, pour avoir la clim.
Ah oui.
Comme il n'y a pas de moteur thermique, la chaleur, il faut bien qu'elle provienne quelque part. Et il y a une petite pompe à chaleur dans la voiture. Ouais, c'est
génial.
Comme quoi, même c'est maintenant dans les voitures. On revient dans un instant. La suite de ce week-end des experts. La maison avec Christian et notre invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Encore une fois, merci d'être avec nous. C'est RMC et c'est le week-end des experts, c'est la maison. Christian Pessé à mes côtés. Et puis, tous nos voeux de bonheur, encore une fois. Hein. Si vous venez d'arriver sur RMC, on vous souhaite une très, très belle année avec nous. Christian, on évoque la chaleur. En tout cas, le chauffage par la pompe à chaleur. On voit que c'est un système de chauffage que vous appréciez. Et on en parle avec notre invité, Evelyne Bechtel, qui est responsable de la communication de l'AFPAC, qui est l'association française des pompes à chaleur. Et avant de retrouver notre auditeur, on termine sur ce sujet.
Oui,
Christian,
on termine sur...
Parlez-nous des pompes à chaleur hybrides.
Voilà, hybrides. Il n'y a pas que les Prius qui sont hybrides.
Les pompes à chaleur aussi.
Et voilà. Et puis il y a plein d'autres véhicules maintenant qui sont hybrides.
Bien sûr,
c'est la mode.
Peugeot,
c'est tant mieux d'ailleurs.
Oui, donc alors, c'est quoi une pompe hybride?
Alors, une pompe à chaleur hybride, c'est un système qui consiste Le retour du 4 janvier est difficile.
Oui, c'est ça.
Qui est constitué d'une pompe à chaleur de petite puissance et d'une chaudière. Et le système dispose d'une régulation intégrée qui va choisir le mode de fonctionnement le plus adapté en termes de consommation et en termes de confort en fonction des conditions extérieures. Puisqu'on est sur une petite pompe à chaleur, si on a des conditions extérieures un peu extrêmes, on va basculer sur la chaudière. Pour le reste de l'année, je dirais même sur la majorité de l'année, on va fonctionner avec la pompe à chaleur, donc là en énergie renouvelable, avec les bénéfices qu'on peut associer aux énergies renouvelables, économie d'énergie et empreinte CO2.
Finalement, c'est un peu comparable, dans le principe, à un chauffe-eau thermodynamique qui va avoir une partie pompe à chaleur et puis le reste en électricité. C'est parallèle.
On peut faire ce parallèle et on a aussi des chauffe-eau thermodynamiques qui sont 100% PAC.
100% PAC maintenant. Il y en a qui fonctionnent sans aucun apport d'électricité.
Oui, pardon.
L'autre aspect des choses, c'est la question de la maintenance. Ça a été évoqué tout à l'heure par notre auditeur qui se disait, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va être compétent pour l'entretien? Et c'est quoi l'entretien? L'entretien d'une chaudière, on comprend. Est-ce que d'abord c'est obligatoire, l'entretien de la pompe à chaleur? Et il fait quoi le technicien de maintenance?
Alors, pour répondre à vos questions, l'entretien d'une pompe à chaleur aujourd'hui n'est pas obligatoire, excepté pour certaines puissances, mais ça reste anecdotique pour le résidentiel. Il n'est pas obligatoire, en revanche, nous le recommandons fortement. En termes d'entretien, l'utilisateur lui-même peut faire un entretien assez simple. Si on est sur une pompe à chaleur RR, on a des systèmes de filtres, s'assurer que le groupe extérieur n'est pas encombré par des feuilles. Et ensuite, l'intervention de l'installateur qui va venir s'assurer du fonctionnement de la pompe à chaleur, des paramétrages qui auront été mis en place, puisque un paramétrage est fait lors de la mise en service pour assurer le fonctionnement en fonction des températures extérieures, s'assurer que tout le fonctionnement est optimal afin d'éviter une mauvaise surprise en fonctionnement.
Et rappelons, on ne touche jamais à la liaison entre les deux groupes, parce qu'avec le risque que là, le fluide frigorigène ou caloporteur s'échappe. Alors, avec les risques sur l'environnement.
En effet, vous avez tout à fait raison de le préciser. Pour toucher aux liaisons frigorifiques, il faut des habilitations que les professionnels ont. Il est interdit d'y toucher, de façon à conserver la parfaite étanchéité de l'installation.
Très bien. Ben, je pense que là, on est au top côté pompe à chaleur.
Le tour de la question.
Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été notre invité.
Merci de m'avoir accueilli.
Ce samedi. Et il est temps maintenant de retrouver Mohamed qui nous attend, Christian, au 32-16. Bonjour, Mohamed.
Bonjour. Et tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Bonne année, Mohamed.
Merci. Alors,
vous nous appelez d'où?
Je vous appelle de Gironde.
De Gironde, parfait.
Pas très loin de Bordeaux. Je suis pas très loin de Bordeaux. Et je vous appelais suite à une émission que j'avais entendue il y a pas longtemps. En fin de compte, j'ai acheté un terrain sur un constructeur qui sont les pavillons d'Atlantique et qui m'ont construit la maison il y a 5 ans. Donc, elle est finie depuis 5 ans. J'y habite depuis 5 ans. Et l'autre jour, en fin de compte, en parlant, ça revient au sujet dont vous parliez maintenant à l'instant, je me suis aperçu que j'avais mon poêle à granules qui faisait que souvent se boucher. Donc j'ai fait intervenir une deuxième fois encore le technicien, mais il cherchait partout le conduit d'évacuation extérieure. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas s'il y en a un. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai un poêle à granules à la maison. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mis à part sur le toit, je sais qu'il y a une évacuation. Il dit, non, vous devez en avoir une sur le côté. Donc j'ai appelé mon constructeur qui m'a envoyé un technicien de chez eux. Il a creusé autour de la maison avec une pelle, il a trouvé là où était l'évacuation. Je leur ai dit, déjà, c'est bizarre. Depuis la construction, vous ne m'avez pas rajouté ce tuyau avec le genre de petit champignon pour le tracteur.
Mais il n'y a pas d'évacuation des poils à granuler dans le sol. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, là?
Non, par rapport aux fumées. En fait, vous avez, quand vous mettez un poil à granules, vous avez une évacuation droite qui va direct sur la toiture, qui sort au-dessus de la toiture. Oui. Et par rapport à la dépression, ou je ne sais plus qu'est-ce qui m'a sorti comme terme technique, il y a une autre évacuation.
Non, c'est pas une autre évacuation. C'est une admission d'air, si vous voulez. Puisqu'on est en circuit fermé.
Voilà,
mais ça c'est pas enterré, c'est forcément au-dessus du niveau du sol.
Voilà, mais oui, mais l'avant enterré. Ils avaient sorti l'évacuation, sauf qu'ils avaient remis la terre dessus.
Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que ça marche.
Le bout de tuyau. Voilà,
ça marchait beaucoup moins bien.
Il manquait un bout de tuyau de 20 cm avec un champignon.
Comme disait Bourville, ça marche beaucoup moins bien.
C'est ça, tout à fait. Donc ils sont venus, ils me l'ont installé la semaine dernière.
Oui.
Et en même temps, je lui ai demandé, par la même occasion, je lui ai demandé est-ce que c'était normal. Je ne trouvais pas ça normal parce qu'en plus de ça, je voulais vendre ma maison et que plein de clients qui sont venus la voir, tout leur va, sauf que ce qui leur fait peur, c'est les fissures que j'ai autour de la maison.
Oui.
Au niveau de toutes mes ouvertures et au niveau de la porte d'entrée, au niveau de la chape, avant qu'ils commencent à pâtir, j'ai des fissures partout. Et il me dit, mais c'est normal, quand on a construit à l'époque, on posait des briques collées. Donc c'est normal, la maison, vous avez des fissures au niveau de l'enduit et du mur à ces ouvertures-là. Ouais. Je lui dis, moi, ces fissures-là, en l'occurrence, elles ne me gênent pas trop, parce que je les vois maintenant.
Elles doivent vous gêner, si.
Mais en visuel, elles me gênent juste à ce
niveau-là. Et alors,
il m'a dit clairement, nous, le constructeur, pour ça, on n'y peut rien. Monsieur, on ne peut rien y faire, mis à part si
vous refaire l'enduit.
Vous faites l'enduit à vos frais.
Non, écoutez-moi, vous avez souscrit une assurance dommage ouvrage.
Oui, tout à fait. Donc, et lui, il est encore en exercice, il a toujours la décennale.
Non, mais on s'en moque. Vous devez ne plus avoir de conversation avec votre constructeur. Votre seul interlocuteur, c'est l'assurance. C'est l'assurance dommage ouvrage. Après l'assurance dommage ouvrage, on verra une expertise, parce que je vous flanque mon billet, que l'expertise va révéler que la dalle, si vous êtes construit sur dalle, n'était pas droite, et donc c'est pour ça que la maison se fissure. J'en ai parlé tout à l'heure, à propos notamment des blocs de béton cellulaire. Donc l'origine, elle est certainement là. Vous n'avez plus de relation à avoir pour tout ce qui concerne la décennale, c'est-à-dire là, les fissures de la maison, maison. Si la maison se fissure vraiment, que c'est traversant, que donc vous avez des risques, je dirais de même à la limite, de stabilité de la maison, parce que ne vous laissez pas enfumer, c'est le cas de le dire pour votre poêle, ne vous laissez pas enfumer par l'histoire selon laquelle ça ne serait qu'esthétique. Ne parlez plus avec votre constructeur, allez uniquement voir votre assureur de dommages ouvrage, et lui, il dira si c'est votre constructeur qui doit faire des réparations ou si c'est un autre qu'il va commettre à sa place.
D'accord.
Et ne vous laissez pas faire parce que votre maison, elle a 5 ans, si j'ai bien compris.
Ben c'est ça, elle a 5 ans, elle vient de finir ses 5 ans.
Voilà. Merci Mohamed
et bon courage et bonne et vous nous tiendrez au courant si jamais ça se passe pas bien avec votre assurance. D'accord.
À très bientôt Mohamed. Et pour terminer ce week-end des experts maison à vendre, retrouver Christian Reca et puis juste après Raphaël Grably. Christian, eh bien nous allons parler de votre coup de cœur de ce samedi matin.
Oui, mon coup de cœur c'est pour la certification NF des logements qui existe depuis déjà quelques temps mais qui prend vraiment de l'ampleur. Alors, l'acquisition d'un appartement neuf ou d'une maison neuve, bah, c'est souvent l'acquisition d'une vie, on n'en change pas comme ça. Donc les garanties constructeurs dépendent de leur fiabilité et c'est pas toujours facile à apprécier, un certain nombre de critères qui doivent répondre à des exigences légales, ben c'est pas toujours le cas, et d'où l'intérêt d'une certification qui garantit que le bien répond à un cahier des charges précis qui va au-delà de ces exigences ordinaires imposées par la loi. Donc vous allez avoir un constructeur qui va dire bon, eh bien moi je me fais volontairement certifier NF Habitat et il y a des contrôles qui sont effectués pour voir si effectivement votre constructeur a bien travaillé dans les règles. C'est une certification qui est délivrée par Qualitel. C'est très sérieux. C'est l'association de la qualité du logement. Comme je le disais, il y a un cahier des charges extrêmement rigoureux. Alors c'est une garantie d'avoir un logement plus confortable, habitable de façon plus agréable, plus fonctionnelle, souvent plus économique en matière de chauffage que des logements standards. Et ce qui ne gâte pas les choses, c'est que en matière de revente, si vous revendez votre logement, eh bien, en disant qu'il est certifié NF Habitat, eh bien, ça lui donnera de la valeur, parce que les successeurs sauront que ça a été bien construit.
Ils achètent aussi une pérennité,
on peut dire
que c'est ça. On arrive à valoriser la plus-value ou pas, aujourd'hui?
Moi, je serais tenté de dire que c'est certainement entre aux alentours de 10-15%.
Ce qui est énorme.
C'est énorme.
Enfin, pour une maison qui coûte 150 000 ou 300 000 euros.
Moi, c'est ce que j'ai évalué à peu près.
C'est pas mal du tout.
Voilà.
Très bien, Christian. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
On va continuer l'année.
Écoutez, avec évidemment
bien commencé, là.
Plein de sujets liés à la maison qu'on évoque, vous le savez, tous les samedis matins sur AMC avec Christian Pessé. Tiens, j'en profite d'ailleurs, si vous avez envie de nous suggérer des sujets pour les samedis qui viennent.
N'hésitez pas.
On a parlé de pompe à chaleur, mais il existe d'autres formes de chauffage. Est-ce que vous voulez qu'on les aborde? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez que l'on évoque dans cette émission? N'hésitez pas. On est là chaque samedi avec Christian Pessé entre 7h et 8h. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 3216 ou alors nous suggérer tous ces sujets via l'appli RMC et Direct Studio. Vous le savez, vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone. On peut vous rappeler.
Mais laissez le téléphone parce que les signaux de fumée, c'est pas très efficace.
Christian Pessé, Christian Reca rentre dans ce studio.
Et le voilà.
Il s'installe. Christian Reca sera là dans quelques instants après la météo et les infos. Et puis Raphaël Grably enchaînera avec la vie numérique. Vous restez avec nous, météo, info, et on revient donc avec la forme et la santé. Christian Reca.
Et bon week-end.
À très vite.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.